Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. Il est 11h en temps universel, 13h à Paris et à Rome.
RFI Midi, Anne Contner.
RFI Midi, 2h30 ensemble avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux à Rome notamment, où Léon XIV a célébré sa première messe en tant que pape ce matin et il a parlé du rôle de l'Église.
Que essa sia sempre più città posta sul monte, arca di salvezza che naviga attraverso i flutti della storia, faro che illumina le notti del mondo.
Qu'elle soit toujours plus pleinement une cité posée sur une colline, une arche de salut naviguant sur les eaux de l'histoire et un phare qui illumine les nuits sombres de ce monde. Nous appellerons notre envoyé spécial au Vatican dans une demi-heure pour revenir sur ce premier message d'un pape que beaucoup présentent comme mondial. États-Unien, ayant aussi la nationalité péruvienne où il a longtemps travaillé, un homme dont les parents sont européens. Portrait avec notre correspondant à Washington à partir de 13h, temps universel, dans notre rendez-vous des Amériques où vous pourrez aussi entendre les réactions de fidèles au Pérou, en Argentine et au Brésil. Et nous parlerons avec notre invité des attentes de l'Amérique latine. Au sommaire également, les célébrations du 9 mai, date à laquelle la Russie commémore la victoire sur l'Allemagne nazie. Un grand défilé militaire est organisé pour l'occasion en présence d'une vingtaine de dirigeants, dont les présidents chinois et brésiliens, un seul européen, le critiqué Premier ministre slovaque. Cet affichage est-il une annonce d'un nouvel ordre mondial ? Nous poserons la question à notre invité dans trois quarts d'heure. Et puis l'entretien politique dans quelques minutes. Vous entendrez l'autrice d'un livre qui fait beaucoup réagir en France, La Meute, une enquête sur le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Voilà pour le programme. Bienvenue. Et tout de suite le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Avec donc les premiers pas du nouveau pape.
Oui, Léon XIV, le successeur de François, a célébré donc ce matin sa première messe dans ses habits de souverain pontife. C'était devant les cardinaux réunis dans la chapelle Sixtine. Dans sa première homélie, il a déploré le recul de la foi et a promis d'être le fidèle administrateur de l'Église catholique afin, je le cite toujours, qu'elle soit un phare. Cette messe était le premier d'une série de rendez-vous lors desquels ses paroles et ses gestes seront observés de près. Son élection hier soir a déclenché une vague de choix chez les catholiques nord-américains. Mais du côté des ultra-conservateurs courant en pleine ascension aux États-Unis, c'est la déception. Harim Leupold, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Ce courant, Harim, aurait préféré un profil plus traditionnaliste.
C'est un pape marxiste. Voilà comment l'influenceuse pro-Trump Laura Loom a réagi à l'élection de Léon XIV. D'autres figures du mouvement trumpiste MAGA ont aussi critiqué vivement le nouveau pape qui juge bien trop progressiste. En réalité, au sein du catholicisme américain, Gilles, effectivement, les ultra-conservateurs ont clairement le vent en poupe. C'est ce que révèle une enquête récente. De plus en plus de jeunes prêtres adoptent une vision très orthodoxe, voire carrément médiévale de l'Église, écrit le magazine Slate. Une tendance qui n'est pas marginale. Elle est partagée par une grande partie de la hiérarchie ecclésiastique dominée aujourd'hui par des cardinaux très conservateurs, que ce soit sur le plan politique, moral ou théologique. Et à ce titre, là, d'ailleurs, le nouveau pape ne reflète pas vraiment l'Église américaine et quelles que soient ses prises de position, il ne pourra pas inverser la tendance dans son pays. La plupart des fidèles, dont plus d'un tiers sont d'origine latino, rejettent les valeurs libérales et ne veulent pas d'une Église inclusive. L'an dernier, pour vous donner un exemple, Gilles, 58% des électeurs catholiques ont voté pour Donald Trump. C'est un chiffre en hausse par rapport à l'élection de 2020.
Merci, Harim Leupold. Voilà pour les États-Unis. En ce qui concerne maintenant la France, l'élection de Robert Francis Prévost, dont le père était français, a logiquement fait réagir la classe politique. Raphaël Delvolvé, bonjour.
Bonjour.
Chaque camp y va de ses désirs, Raphaël, et tout semble affaire de proximité idéologique.
Oui, à l'extrême droite, où l'on a peu goûté aux positions promigrantes du précédent pape, on sent bien un désir de voir Léon XIV mener un pontificat plus conservateur. Marine Le Pen du RN souhaite qu'il s'inscrive dans celui de Jean-Paul II quand sa nièce Marion Maréchal espère une fidélité à la tradition catholique, comprendre l'exact inverse de ce que fut François. Réaction plus enthousiaste à gauche, l'ancien président François Hollande croit savoir que la démarche du nouveau pape sera la même que le précédent en faveur des plus fragiles. Beaucoup à gauche republient aussi un ancien tweet de Robert Francis Prévost dans lequel il critique J.D. Vance, l'ultra-conservateur vice-président américain. Il a pas l'air mal, ce nouveau pape, se réjouit l'écologiste Marine Tondelier. Jean-Luc Mélenchon plutôt farouche détracteur de l'Église, semble aussi séduit par ce profil. Il est américain, pas trumpiste, a un nom français et parle espagnol, écrit-il. Ce côté transnational plaît d'ailleurs également au Premier ministre. François Bayrou remarque les origines franco-italiennes du nouveau pape ou encore ses 20 ans passés au Pérou. Le président Emmanuel Macron lui fait sobre. En chef d'État parlant à un autre chef d'État, il plaide pour un pontificat porteur de paix et d'espérance.
Raphaël Delvolvé du service politique.
La Russie célèbre le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, célébration dans le faste et la grandeur. Ce matin, tous les cadres du régime ainsi qu'une vingtaine de dirigeants étrangers, dont le président chinois, ont assisté à une grande parade militaire sur la place Rouge à Moscou. Ont défilé quelques 11 000 soldats, dont, selon l'agence officielle de presse russe, 1500 ayant combattu en Ukraine. Dans son discours, Vladimir Poutine a de nouveau comparé la Deuxième Guerre mondiale et l'attaque de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Il considère que l'ensemble de la Russie soutient cette offensive et que son pays sera toujours, je cite, une barrière contre le nazisme, la russophobie, l'antisémitisme. Cette parade avait des airs de démonstration de force. Toutefois, après plus de 3 ans de guerre, elle a difficilement masqué l'état réel de l'armée russe. Franck Alexandre.
Plusieurs milliers de soldats sur la place Rouge, avec des chars bien sûr et des lanceurs nucléaires les plus modernes. Devant la vingtaine de pays représentés, le défilé du 9 mai est toujours une arme de propagande. Pourtant, cet affichage peine à masquer les faiblesses structurelles de l'appareil militaire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a perdu plus de 20 000 équipements lourds, dont 2 600 chars. La flotte de la mer Noire a subi de lourdes pertes, 20 bâtiments coulés ou endommagés, et l'aviation a également souffert. L'Ukraine est parvenue à mettre hors de combat près de 300 appareils, soit le quart des capacités disponibles au début du conflit. Mais grâce à son industrie exclusivement consacrée à l'effort de guerre, la Russie poursuit une remontée en puissance de ses armées et modernise son arsenal stratégique, à commencer par sa flotte de sous-marins nucléaires. Elle s'est aussi dotée de fortes capacités de production de drones et de munitions et parvient même à accroître le nombre de ses soldats, avec l'objectif vertical de porter bientôt ses effectifs à 1,5 million d'hommes, après en avoir perdu plusieurs centaines de milliers en Ukraine.
Franck Alexandre, spécialiste des questions de défense. La France, de même que l'Union européenne dans son ensemble, ont critiqué la présence ce matin à Moscou du Premier ministre slovaque Robert Fico. Ce n'était pas sa place, a estimé le ministre français chargé de l'Europe.
Et pendant que les Russes commémorent la capitulation de l'Allemagne nazie, un sommet franco-polonais se tient dans l'Est de la France, à Nancy, en cette journée de l'Europe.
Oui, Emmanuel Macron et le Premier ministre Donald Tusk doivent signer un traité d'amitié renforçant le partenariat entre la France et la Pologne. Traité qui va changer la donne, promet le Premier ministre polonais. C'est en tout cas le signe du poids grandissant en Europe de la Pologne, acteur clé face à la Russie. Nancy, ville importante du nord-est de la France, n'a pas été choisie au hasard. Anastasia Becchio, elle symbolise les liens unissant les deux pays.
Emmanuel Macron accueillera Donald Tusk sur la magnifique place Stanislas. Elle porte le nom de l'ancien roi de Pologne devenu duc de Lorraine, Stanislas Leszczynski, par ailleurs beau-père de Louis XV. Au-delà du symbole, l'événement est destiné à hisser les relations franco-polonaises à un niveau supérieur. Signe de l'importance que revêt la Pologne pour la France, ce traité bilatéral est le premier signé avec un pays non frontalier. Les contours de l'accord restent encore flous. Selon Emmanuel Macron, il doit concerner les domaines stratégiques de la défense à l'énergie, en passant par le nucléaire, la coopération scientifique, linguistique et culturelle. Côté polonais, le ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, avait affirmé que ce traité mentionnerait de fortes clauses de sécurité. Avec la guerre en Ukraine à ses portes, la Pologne est devenue une puissance régionale incontournable. Son armée est la plus importante du continent et ses dépenses de défense avoisinent les 5% de son PIB. Très atlantiste et dépendante des États-Unis pour la fourniture d'équipements militaires, elle cherche toutefois à nouer de nouvelles alliances dans un contexte d'instabilité générée par la présidence Trump. La France y voit une opportunité de rapprochement qui sera scellée cet après-midi au palais Stanislas. Anastasia Becchio, Nancy, RFI.
Entre l'Inde et le Pakistan, les opérations militaires se multiplient, donnant l'impression que l'état de guerre s'installe entre les deux voisins. L'Inde dénonce une nouvelle vague de frappes sur son territoire, des attaques nocturnes de drones et des tirs pakistanais tout au long de la frontière. De son côté, le Pakistan dément être intervenu en Inde et fait état de nouveaux morts. Chinois et Américains parleront commerce ce week-end à Genève. Une première depuis le déclenchement par Donald Trump de sa guerre commerciale. Elle menace les échanges bilatéraux et bouleverse les chaînes d'approvisionnement mondiales. Parmi bien d'autres grands groupes impactés, le géant japonais de l'électronique Panasonic. Panasonic annonce des restructurations qui se traduiront par quelques 10 000 suppressions d'emplois dans le monde. C'est 4% de ses effectifs totaux. Et puis la Chine, par ailleurs, annonce qu'elle va sévir contre la contrebande de minerais stratégiques, des minerais essentiels à la fabrication de semi-conducteurs et d'armes qui font l'objet de restrictions à l'exportation. Un mot de football, la finale de la Ligue Europa sera 100% anglaise. Face à face le 21 mai à Bilbao, Manchester United et Tottenham. Pour finir, un mot de l'actualité en France, en ce mois de mai où les jours fériés sont nombreux, les Français profitent actuellement du pont du 8 mai. À la SNCF, la Société des Chemins de Fer, les syndicats de contrôleurs ont déclenché une grève qui a démarré ce matin, sans trop de conséquences pour le moment sur le trafic. La SNCF a prévu de faire rouler plus de 9 TGV sur 10 et elle promet à ses clients, dont le train a été annulé, d'en réserver un autre le jour même sans frais. Des syndicats réclament des augmentations des primes ainsi qu'une meilleure anticipation des plannings. Voilà, tout va bien pour vous, Anne Kantner. Vous n'avez pas prévu de prendre le train ?
Non, je suis là.
Tant
merci.
Mieux,
merci
on reste avec vous.
À tout à l'heure. Tout au long de RFI Midi, nous aurons l'occasion d'évoquer les réactions, les attentes après la désignation d'un nouveau pape hier, attente partout dans le monde.
RFI, la France à midi.
Elles sont très grandes en France et on va en parler avec vous, Tanita Fallet. Léon XIV devra notamment apporter des réponses et des changements sur la question des violences sexuelles et la pédocriminalité dans l'Église.
Ce sera l'un des gros chantiers de Léon XIV dans une France marquée par les effrayantes conclusions du rapport Sauvé de 2021 qui recensait 216 000 victimes d'abus sexuels par des membres de l'Église depuis 1950. Une Église qui a connu de nombreux scandales plus récemment sur l'abbé Pierre, d'abord prêtre et fondateur d'Emmaüs, accusé de nombreuses agressions sexuelles. Le Vatican est soupçonné d'avoir su dès les années 1950, mais d'avoir gardé le silence. Autre révélation, celle des violences dans plusieurs établissements scolaires catholiques français depuis le début de l'affaire Bétaram en février. Le collectif de Agir pour notre Église, qui lutte contre les abus sexuels au sein de l'institution, pense que ce nouveau pape sera à la hauteur. Aymeric de Besnac, l'un des porte-paroles, le rappelle, Léon XIV est un canoniste qui connaît bien le droit interne et disciplinaire de l'Église, son élection est donc de bon augure.
Il a dû voir un certain nombre de dossiers disciplinaires, il a obtenu le départ d'un certain nombre d'évêques. Et puis j'ajoute que c'est un pape d'origine américaine et les évêques américains sont extrêmement sensibilisés au sujet des abus. On connaît l'histoire de la faillite du diocèse de Boston qui a dû indemniser un grand nombre de victimes. Aux États-Unis, la lutte contre les abus, elle est bien plus avancée qu'en France. Donc c'est un ensemble d'indices qui nous laisse penser que ce pontificat va continuer sur la ligne du pape François, mais avec peut-être plus de cadre et de cohérence.
Et on retrouve chez Léon XIV d'autres intérêts communs avec François.
Lors de sa première apparition sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, il a appelé à la paix pour tous. Une position d'apaisement qu'il partage avec son prédécesseur. On peut s'attendre à des positions protectrices envers les plus démunis. Une main qui ne se tend pas aussi franchement vers la communauté LGBT+. Sur ce volet, Léon XIV est plus ambigu. En 2012, alors évêque de Chiclayo, il avait dénoncé la sympathie croissante des médias pour des croyances et pratiques contraires à l'évangile. Il ne s'était pas non plus clairement exprimé sur la bénédiction des couples homosexuels, position qui mène l'association SOS Homophobie à un mélange d'espoir et de prudence, tout comme l'association française chrétienne et LGBT+, DEJ Arc-en-Ciel. Diego Moreira en est le porte-parole.
On peut être tenté de voir le passé de la personne, mais là, en fait, on attend et on voit. Parce qu'en fait, c'est sa position qu'il a prise, il y a des positions qu'il a prises en 2012, il y a des positions qu'il a prises aussi après, en parlant des femmes. Donc, on attend avec espoir aussi, parce qu'on ne peut pas revenir à l'arrière.
Le nouveau pape s'était effectivement montré réticent à l'ouverture de l'Église aux femmes.
Et pourtant, la féminisation de l'Église est attendue par une partie des catholiques françaises.
On a récemment vu des mouvements dans ce sens. Des paroissiennes ont même fait grève en mars dernier, pendant le carême. Elles demandaient plus de considération. En 2023, Léon XIV avait déclaré que cléricaliser les femmes ne résoudrait pas les problèmes de l'Église. Des positions ambiguës donc, mais tout de même perçues comme progressistes. Une étiquette qui pourrait effrayer la frange la plus conservatrice des catholiques français.
Tanita Fallet.
RFI Midi.
On va revenir maintenant sur un livre qui fait beaucoup réagir en France. La Meute, une enquête sur Jean-Luc Mélenchon et sur la France insoumise. Véronique Rigolet, vous recevez l'une des auteurs de cet ouvrage, Charlotte Belaïche.
Bonjour Charlotte Belaïche.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RFI, co-autrice de ce livre enquête choc, paru il y a deux jours et qui fait couler beaucoup d'encre en décrivant le fonctionnement très clanique du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, avec son lot de brutalité et de violence, les purges, les menaces. Après deux ans d'enquête, 200 témoignages, vous arrivez à cette conclusion, et bien que LFI n'est pas un parti comme les autres, mais fonctionne, dites-vous, comme une véritable secte.
Oui, alors c'est évidemment, cette enquête, elle dit aussi de la politique, elle raconte des façons de faire qui sont inhérentes à la politique, les phénomènes de cour, le culte du chef, mais on a nous-mêmes été surpris par l'ampleur de ce qu'on a découvert, à commencer par la fascination que Mélenchon, que Jean-Luc Mélenchon exerce sur les militants insoumis, et ça, ça nous paraît assez spécifique au mouvement.
Vous dites une secte avec à sa tête donc celui qui fait figure de gourou, Jean-Luc Mélenchon, avec également sa compagne Sophia Chikirou, la députée qui n'est pas non plus épargnée. Jean-Luc Mélenchon qui exige, je vous cite, l'admiration totale de ses disciples, des rapports de soumission. On parle là d'emprise.
Oui. Alors nous, on ne parle pas de ce secte, je le précise, mais c'est vrai qu'on nous raconte un fonctionnement sectaire, une mécanique sectaire. Il y a les mots d'emprise, vous l'avez dit, le mot gourou qui revient beaucoup. L'idée aussi d'interdiction de douter qui est très forte. Mais ce qui nous a semblé le plus intéressant et le plus surprenant, c'est de comprendre que Jean-Luc Mélenchon s'était donné les moyens de cette emprise. Alors, c'est d'abord le résultat de son charisme, qui est indéniable. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui incarne une utopie politique et ça tranche avec le reste de la gauche où il y a une forme de pessimisme qui règne. Mais c'est aussi l'effet de la façon dont il exerce le pouvoir avec, vous l'avez dit, une certaine forme de violence qui est systématisée.
Et ce qui frappe d'emblée dans votre ouvrage, c'est l'extrême brutalité de Jean-Luc Mélenchon. Il y a cet exemple édifiant de Charlotte Girard, la veuve de l'un de ce qui a été l'un de ses plus proches compagnons, François de la Pierre. Et Jean-Luc Mélenchon écrit en gros « Ton mari aurait honte de toi après qu'elle ait, pour toute faute, émis des critiques sur le fonctionnement du parti ».
Oui, c'est un exemple de la violence de Jean-Luc Mélenchon. Il y en a d'autres. Moi, je trouve que le cas d'Alexis Corbière est assez symbolique aussi. Alexis Corbière, c'est quelqu'un qui a fait de la politique avec Jean-Luc Mélenchon pendant des années.
30 ans, 30 ans de compagnonnage.
30 ans, exactement, 30 ans de compagnonnage. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il le soutient à un moment où Jean-Luc Mélenchon n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Ils n'ont aucun mandat, ils ne sont pas payés pour faire de la politique. Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore le leader politique qu'il est, et pourtant, il fera de la politique avec lui pendant des années. Sa femme a une phrase qui est assez révélatrice, elle dit « Mon mari, entre Jean-Luc Mélenchon et moi, a toujours choisi Jean-Luc Mélenchon », donc c'est dire sa dévotion, son soutien. Et pourtant, à l'été 2024, Mélenchon n'hésitera pas à l'exclure sans justification, sans aucune discussion, et avec une violence telle, la mise en place d'un récit de la traîtrise et une véritable excommunication.
Il y a les colères du chef, c'est dans tout votre ouvrage, il hurle sur tout le monde, je cite, et un proche vous explique que la violence de LFI vient du caractère de Mélenchon.
Oui, Raquel Garrido, donc ancienne députée insoumise, purgée aussi, dit « Jean-Luc est un maltraitant qui crée des maltraitants ». Ce qu'on raconte dans le livre, c'est que Mélenchon est un homme colérique qui lui-même se définit comme tel. On raconte dans le livre qu'il se confie un jour au socialiste Jérôme Guedj et lui dit « J'ai perdu tellement de temps avec ma colère, ça m'a pris tellement d'énergie ». Donc ça, c'est un trait de personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Mais qui a été ensuite théorisé dans le mouvement. Alors d'abord par la stratégie du bruit et de la fureur, qui consistait à parler dur pour se faire entendre dans l'espace politique et médiatique. Mais c'est aussi une violence qui a irrigué tout le mouvement.
et qu'on retrouve ensuite entre les députés, puis entre les députés et leurs collaborateurs, et ainsi de suite.
Une violence, une emprise face à ses troupes au service de sa grande ambition, sinon son obsession, c'est bien sûr l'élection présidentielle, avec, dites-vous d'ailleurs, une véritable ambiguïté sur l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon, après avoir été longtemps un laïcard forcené.
Ce qui est intéressant, c'est que, y compris dans les rangs de la France insoumise, donc je parle d'élus, de salariés qui sont encore en partie dans le mouvement, il y a des gens qui admettent un manque de sensibilité sur le sujet. Ça s'est notamment beaucoup dit au moment de la polémique sur l'affiche. Exactement. Et ils admettent un peu une forme de malaise, alors que, par ailleurs, le mouvement est en pointe sur les questions de discrimination. Ce qu'on raconte aussi, c'est qu'il y a une ambiguïté qui est aujourd'hui entretenue par Jean-Luc Mélenchon, qui assimile quelque part les juifs français à la politique du gouvernement israélien. C'est ce qu'il fait, alors on le cite dans le livre, quand il somme la diaspora française, donc la diaspora juive, de condamner le refoulement de Rima Hassan qui a été refoulé à l'aéroport de Tel Aviv cet hiver.
Et vous-même, vous l'avez appris, il vous a traité d'agent du Likoud, le parti très à droite du Premier ministre Benjamin Netanyahou.
Exactement. Et donc à ce moment-là, on est avant le 7 octobre, j'écris un article pour Libération qui parle du malaise qui existe entre la communauté juive en France et Jean-Luc Mélenchon, qui à l'époque est accusé d'avoir des propos antisémites ou à minima ambigus. Et il dira à cette époque que je suis un agent du Likoud, alors que, il faut le dire, je n'ai jamais parlé du conflit israélo-palestinien, je n'ai jamais pris position sur le sujet. Donc il assimile mon nom à un pays étranger.
Et cette ambiguïté sur l'antisémitisme, c'est lié à du communautarisme?
Alors, c'est comme ça que certains l'interprètent. Nous, c'est pas un livre d'analyse, je le précise, c'est un livre d'enquête. Et c'est comme ça que ses anciens proches, donc notamment ceux qui ont fait de la politique avec lui pendant des années au Parti Socialiste et qui faisaient partie avec lui de cette gauche très laïcarde, eux, ils analysent ce revirement comme la démonstration qu'ils pensent que c'est ce qu'attendent les habitants des quartiers populaires, ce qui est une forme d'essentialisation aussi, d'assignation, et qui par ailleurs ne se fonde peut-être pas forcément sur des éléments concrets.
Alors, votre livre, paru donc il y a deux jours, a semé un certain embarras chez les Insoumis qui, comme vous l'aviez anticipé d'ailleurs, dénoncent des mensonges, un ouvrage de fiction, dit même Manuel Bompard, le coordinateur du parti, qui nie d'ailleurs l'une des révélations de ce livre, que Jean-Luc Mélenchon, après le résultat décevant des Européennes, lui aurait lancé « Achète-toi un cerveau ».
Oui, alors, vous l'avez dit, dans le livre, on l'écrit, on se doutait qu'il y aurait une stratégie de décrédibilisation qui se mettrait en marche. Donc, il part de fiction. Alors, il y a cet exemple. Il nous accuse aussi de ne pas avoir fait de contradictoire, donc c'est-à-dire de ne pas les avoir interrogés sur les propos les mettant en cause. C'est faux. On a envoyé des dizaines de demandes de contradictoires. On peut les montrer à Sofia Chikirou, à Jean-Luc Mélenchon, à tous ceux qui sont mis en cause dans le livre. Ils n'ont pas répondu. Et voilà, maintenant, ils insistent sur des détails. Alors, on nous a aussi reproché de ne pas être trompé sur la couleur de vin qu'aimait Jean-Luc Mélenchon. Ça, on peut l'admettre.
C'était pas du vin rouge, c'était du vin blanc.
C'est pas du vin blanc, c'est du vin rouge. Quiconque connaît Jean-Luc Mélenchon sait qu'il boit du vin rouge, a dit Mathilde Panot. Bon, voilà, ça, on admet l'erreur.
Ça, vous l'admettez. Est-ce que vous mesurez l'impact qu'aura votre livre et ses révélations sur la prochaine campagne présidentielle, alors qu'on le sait, les filles traversent déjà une période difficile?
Alors, c'est dur à juger. Et encore une fois, je précise qu'on n'a pas fait ce livre pour qu'il y ait un impact, dans un sens ou dans un autre. Alors, nous, les premiers retours qu'on a de militants, on a beaucoup de messages de soutien d'anciens militants qui nous disent merci de raconter notre histoire, merci de dire ce qui se passe à l'intérieur de ce mouvement. Mais pour l'instant, le premier réflexe qu'on observe en interne, c'est plutôt de resserrer les rangs.
Et depuis la parution du livre, vous avez été, on sait que vous avez été banni au cours de cette enquête, banni du suivi de la France insoumise. Est-ce que depuis la parution, vous avez reçu des menaces ?
Non, aucune menace directe, aucun message direct de cadre de la France insoumise. On l'a dit, on s'est retiré des réseaux sociaux, mais en revanche, il y a quand même des gens qui regardent un peu ce qui s'y dit pour nous. Moi, ce que je constate me concernant, c'est un torrent de propos antisémites, encore une fois. Mais de la part de cadres, de salariés du mouvement, on n'a eu aucun retour pour l'instant.
Merci Charlotte Belaïche, co-autrice de La Meute, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Une très bonne journée à vous.
Merci.
La France se souvient cette semaine de son passé esclavagiste. Un travail de recherche, de reconnaissance est toujours en cours, notamment à Arcueil. En région parisienne, où sera installée demain une stèle du souvenir à l'occasion de la journée des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Notre reporter Sylvie Coffi s'est rendue sur place pour comprendre comment sont conçus ces lieux de mémoire.
Les premières villes à avoir érigé un lieu du souvenir avaient une histoire en lien direct avec l'esclavage, comme les ports de Nantes, Bordeaux ou La Rochelle.
Le critère d'un lieu de mémoire, c'est d'avoir un rapport avec le passé esclavagiste.
Frédéric Régent, historien, nous donne quelques exemples.
Une plaque portant le nom d'un armateur négrier, un musée, un mémorial.
Arcueil, 21 000 habitants, fait partie des communes qui, même sans passé esclavagiste, ont voulu avoir un lieu mémorial. Le choix de cette ville du Val-de-Marne s'est porté sur une stèle pour célébrer cette journée du 10 mai. L'installation est située entre deux écoles, maternelle et élémentaire. Guillaume Viau, adjoint au maire.
Le projet, effectivement, c'était de mettre en place une colonne brisée, comme l'esclavage qui a été brisé aussi. On voit que le haut est un petit peu brisé. Et puis l'idée, c'est une stèle voilà, qui permette d'apposer cette plaque, qui est la reconnaissance de l'esclavage. Voilà, donc il y a eu un travail fait notamment par les associations, avec des jeunes, savoir qu'est-ce qu'on veut mettre comme phrase sur cette stèle. Et finalement, ça s'est resserré à ce premier article de la loi de 2001 qui consacre la reconnaissance de l'esclavage par la France comme un crime contre l'humanité. Et on y a posé en plus cette phrase d'Edouard Glissant sur la mémoire. L'oubli offense et la mémoire, quand elle est partagée, abolit cette offense. Ça redit bien notre volonté de partager cette mémoire, de l'assumer aussi.
Mais avant d'en arriver là, cela a pris pas mal de temps.
C'est vrai que depuis un peu plus de 10 ans, on faisait tous les ans une commémoration qu'on faisait au monument aux morts de la ville d'Arcueil. Et il n'y avait pas de lieu de recueillement spécialement dédié à ça. Et ça nous paraissait important de créer un lieu et quelque chose qui demeure aussi.
Damarisma Marchand, militante pour le droit des femmes et membre du collectif Les Chemins de la Mémoire, a enfin le sourire.
Je suis non seulement honorée et fière par moments, lorsque j'aurai besoin de certaines forces, je viendrai me recueillir ici.
Et en effet, elle n'aura plus à être ballottée d'un site à l'autre.
On a été à des lieux qui plus ou moins ressemblaient là où étaient commémorées d'autres histoires de la France. On suivait et on se disait un jour ça arrivera. Ça arrivera pour qu'on ait un lieu. Mais sinon, c'était souvent des lieux symboliques déjà qui existaient. Et on a toujours été comme ça pour pouvoir commémorer. Chaque année.
Sur sa plateforme, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage va donc inscrire ce nouveau lieu de commémoration et elle s'attelle déjà à recenser les sites présents à travers le monde liés à l'histoire de l'esclavage.
Reportage de Sylvie Coffi à réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet rfi.fr pour y retrouver notamment toutes les informations relatives à l'élection du nouveau pape Léon XIV qui a célébré ce matin sa première messe à la chapelle Sixtine. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus d'une minute pour l'actualité en Europe. À tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
Chère Ibra Femme. Mino Crusaders.
Big sound string on, kick it off like wow. In a the arena, we know lie low. Good sense in me, lore is all I grow. Rastafari, no, Rastafari, no.
Neg Maru.
Encore.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique. Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Un album pour s'affranchir du regard des autres et apprendre à cultiver sa différence, Julia Jean-Baptiste, sa pop rock à la fois énergique et mélancolique, revient avec Toujours Plaire. Elle sera avec nous et en live dans l'émission.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair,
du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.